Radio Rythme Bleu, il est 17h45, info soir, c'est avec Bougie le ménage.
Le couvre-feu à nouveau prolongé par le Haut-Commissariat, il va rester en vigueur jusqu'au lundi 12 août. Philippe Blaise, invité de Transparence, le président du MRC et premier vice-président de la province sud, dénonce les actes de la CCAT et une armée du mensonge. Extrait à suivre dans un instant. La province sud réagit et met les choses au point après la fermeture hier du foyer Bethany. Ce n'est pas du tout une question budgétaire, affirme l'institution. Les échanges commerciaux de la Nouvelle-Calédonie en chute libre, elles baissent en valeur de plus de 40% à l'import et de 60% à l'export. Un nouveau commandant pour la base navale, le capitaine de vaisseau Julien Faure est le nouveau pacha de la base de Nouméa. Et puis dans ce journal, notre page spéciale JO de Paris 2024, ce soir Maxime Grousset s'aligne sur les séries du 100 mètres papillon. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les mesures de couvre-feu sont donc prolongées sur l'ensemble du territoire. Décision prise aujourd'hui par le haut-commissaire qui précise qu'il restera en vigueur de 22h à 5h du matin jusqu'au lundi 12 août. La vente et le transport d'alcool restent interdits sur l'ensemble du territoire pendant toute cette période, y compris chez les cavistes. Le haut-commissaire précise également que les forces de l'ordre ont procédé à ce jour à 2235 interpellations et que depuis le début de la crise, plus de 67 000 mètres cubes de carcasses et déchets ont été déblayés des voies de circulation. Ceux qui sont pour la construction doivent l'emporter sur ceux qui sont pour la destruction et qui sont minoritaires. C'est ce que déclare Philippe Blaise, qui était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. L'élu Les Loyalistes, qui est le président du MRC et premier vice-président de la province sud, est revenu Jean-François Bodin sur la situation insurrectionnelle et sur ses conséquences.
Pour Philippe Blaise, le 13 mai, la Nouvelle-Calédonie a été victime d'une tentative de coup d'État. Mais on va tenir et on va se battre, affirme-t-il. Et il dénonce les actes criminels des leaders de la CCAT.
La justice ne s'y est pas trompée. Vous savez, les gens, ils ne vont pas en prison pour leurs idées politiques. Je l'ai dit au Congrès. On n'emprisonne personne dans la République française parce que vous êtes indépendantiste, et même si vous le dites de façon virulente. Mais quand vous commettez des actes de nature terroriste criminelle, vous avez à répondre de vos actes. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens en prison. C'est que ces gens, les enquêtes ont démontré qu'ils avaient la responsabilité dans des actes qu'ils avaient soit perpétrés, soit organisés. Et donc, moi, je tiens à saluer le courage, le travail qui est fait par le procureur avec le haut-commissaire, parce que ils font appliquer les lois de la République. Les gens responsables d'actes criminels doivent répondre de leurs actes et la justice fera la lumière sur tout cela.
Le premier vice-président de la province sud salue l'action du haut-commissaire et du procureur de la République, même s'il reconnaît qu'il y a eu un peu de retard dans la prise en compte de la situation.
L'État a été très réactif pour assurer la sécurité des sites sensibles, mais je pense qu'il y a eu une sous-estimation de l'enjeu des destructions économiques. On a un peu laissé faire dans les premiers temps, les premiers jours, et je pense qu'on aurait pu éviter certaines destructions. Maintenant, je constate que l'État, et c'est le président de la République lui-même qui est issu du dossier, a envoyé des moyens exceptionnels en Nouvelle-Calédonie pour rétablir l'ordre. Donc je crois qu'il faut voir quand même ce qui est positif, et il faut que la population et nous les élus, nous soutenions l'action de l'État, parce que heureusement que la France est là, heureusement que la République est là pour assurer la sécurité des ressortissants français. Donc ce qu'on espère maintenant, c'est que l'État nous mette plus de moyens après les Jeux Olympiques et puis aide surtout à libérer les 11 000 résidents du monde nord-sud qui aujourd'hui sont des martyrs de cette violence organisée par la CCAT.
Philippe Blaise met en cause les commanditaires de l'insurrection du 13 mai et pour lui, il est évident que l'Azerbaïdjan en est l'un des acteurs.
Mais je ne le pense pas. Enfin, ils s'en vantent. Enfin, on a quand même Omeyra Neslin qui est allée à Bakou il y a un moment déjà. On a Michael Forrest, membre du gouvernement calédonien, qui est allé à Bakou pour dire que oui, lui, il fait partie de la CCAT et très content, très fier de ce qu'ils ont fait comme travail. Et puis, on a d'autres marionnettes à côté. Alors, il y a Madame Sakilia, il y a Madame Beharoun, il y a Madame Saliga, qui sont allés contre un billet d'avion lire ce qu'on leur a dit de lire pour cracher sur la France. Et ces gens-là font honte aux élus de la République parce que ce sont des élus de la République et ils sont achetés par une puissance étrangère qui n'est pas là pour les libérer. Ils ne sont pas prisonniers, ils sont en République française. Ils sont instrumentalisés par ces gens-là. Et j'espère qu'ils auront des comptes à rendre.
Interrogé sur la capacité des Calédoniens à se retrouver après ces violences, Philippe Blaise affirme que les Calédoniens sont fondamentalement dans le vivre ensemble et qu'il ne faut pas renoncer à cet idéal. Et maintenant, il faut reconstruire avec ceux qui sont, dit-il, les forces de construction.
Les forces de destruction, ce sont les terroristes qui sont aujourd'hui à Saint-Louis, ce sont ceux qui ont organisé cette destruction économique, dont certains aujourd'hui n'assument pas. Je trouve extrêmement choquant que le groupe UCF-LNKS vienne nous dire « Mais pourquoi vous ne réglez pas le problème du transport en commun ?» viennent s'émouvoir du fait qu'il y a des destructions d'emplois. Ce sont eux qui sont derrière ça. La CAT, elle a été créée par l'UC. Disons les choses. Donc les pompiers pyromanes qui déclenchent la guerre, qui déclenchent les problèmes, les incendies, qui arment la main de ceux qui agissent, qui après viennent dire « Il faudrait régler le problème », ils nous font un peu rigoler. Et après, il y a les forces de construction. Les forces de construction sont tous ceux qui, quelles que soient leurs idées politiques, disent « Nous, on n'a jamais été d'accord pour qu'on brûle des églises. On n'a jamais été d'accord pour qu'on brûle des écoles, pour qu'on mette nos gens au chômage. » Parce que qui est puni dans cette affaire? Vous savez, Christian Théin, il s'est gargarisé de dire « On va frapper l'économie coloniale. » Christian Théin, il a sa place en prison parce qu'il a détruit des dizaines de milliers d'emplois, y compris des gens de sa propre communauté, des gens qui aujourd'hui vont avoir des problèmes de famine dans les quartiers. Tout le monde est au courant, ça remonte. Donc, les forces de construction sont ceux qui refusent ça, qui disent « Notre combat politique ne consiste pas à mettre les gens dans la misère et à détruire la situation des gens. »
Le Palika assume ses différences, ajoute Philippe Blaise qui salue par ailleurs le courage et l'union sacrée des citoyens vigilants qui ont su s'organiser au-delà de leurs différences pour défendre leur quartier. Et selon lui, les élus partisans du maintien dans la France doivent s'en inspirer et s'attacher à la réconciliation et au rapprochement pour défendre les Calédoniens. Et il affirme que le train de la réconciliation va bientôt démarrer.
Je crois que d'abord, aucun de nous ne détient la vérité ultime. Je pense que ce qui s'est passé doit nous amener à beaucoup d'humilité et surtout beaucoup d'humilité envers l'exemple de ces citoyens qui se sont unis pour se défendre. La ligne, c'est la ligne claire. C'est est-ce qu'on veut rester français ? Oui, on veut rester français. À partir de là, il y a des nuances, il y a des sensibilités, il y a des styles différents. Il y a des gens qui disent, voilà, il faut montrer aux indépendantistes. Et moi, je fais partie de ceux-là, qui ne nous imposeront rien par la force. Et je le dis à ceux qui imaginent qu'il y aura une deuxième mi-temps le 24 septembre et qui vont nous imposer des choses par la force, on sera là. C'est-à-dire qu'on ne laissera pas les choses recommencer comme le 13 mai. Mais en même temps, il faut aussi avoir des gens qui ont des sensibilités, qui savent parler aux gens. Il y a une façon de parler avec le monde mélanésien. Il y a des usages, il y a des sensibilités. On a besoin de tout le monde.
Il faudra être prêt pour la reprise des discussions qui pourraient avoir lieu en septembre, affirme le premier vice-président de la province sud, qui tient à rétablir des choses et qui dénonce l'armée du mensonge.
Il y a une armée du mensonge. L'armée de Bakou qui raconte plein de choses sur les milices armées, qui essaie de faire croire que ce sont les loyalistes qui ont brûlé les entreprises. J'ai entendu des élus, Mme Saliga, Mme Sakili, expliquer que c'était nous qui avions mis le feu à des magasins. Cette armée du mensonge, elle essaie de détourner l'attention sur la vraie responsabilité, sur les vrais agresseurs. Les agresseurs sont ceux qui ont déclenché les hostilités le 13 mai, et même un peu avant, qui ont encouragé des jeunes à faire des bêtises, à brûler, à détruire les magasins dans leur propre quartier, qui essayent de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes les victimes et nous sommes organisés pour défendre ce à quoi nous croyons. Nous croyons à la République française, nous croyons aux valeurs humanistes de la République, nous croyons à la démocratie, nous croyons à la liberté de penser, nous croyons à la liberté d'expression populaire. Et donc, nous respectons toutes les opinions à partir du moment où ces opinions respectent les autres et respectent les règles de la République.
Une interview de Philippe Blaise qui sera rediffusée dimanche soir, juste après notre édition à 17h45, et elle est aussi disponible en audio et vidéo sur notre site internet.
Merci Jean-François Bodin. Marie Guévenoux a quitté le territoire au terme d'une visite de 36 heures pendant laquelle elle avait annoncé qu'elle souhaitait prendre une posture d'écoute. Arrivée mercredi soir, elle s'est entretenue avec la présidente de la province sud, Sonia Baquès, avant d'échanger longuement avec les forces de l'ordre et de sécurité, réunies au commissariat central de Nouméa. Hier, jeudi, elle a rencontré tous les groupes politiques du Congrès. Vous avez pu entendre la réaction de certains d'entre eux dans nos précédentes éditions. L'un des derniers groupes reçus hier soir a été l'Uni Palika. L'un des membres de la délégation, Jean-Pierre Jaïwe, nous a dit qu'ils avaient rappelé à la ministre la responsabilité de l'État dans la gestion du dossier calédonien et évoqué aussi la situation générée par les émeutes du 13 mai.
Ce qui s'est passé ici en Nouvelle-Calédonie relève d'une responsabilité collective, aussi bien de l'État que des responsables politiques de tous bords, indépendantistes comme non-indépendantistes. On est tous responsables de la situation que nous avons connue ces derniers temps, certainement avec des degrés divers, mais il faut le reconnaître, c'est une responsabilité collective. Et à partir de ça, c'est à nous tous, les responsables, tous les responsables calédoniens, les institutions, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les autorités coutumières et bien évidemment la population, nous devons tous nous retrousser les manches pour reconstruire notre pays.
La Calédonie n'a pas les moyens de reconstruire. L'Uni Palika a remercié d'ailleurs Marie Guévenoux pour l'argent déjà débloqué par l'État, mais il y aura besoin de beaucoup plus, nous a dit Jean-Pierre Jaïwe, et seul l'État pourra aider. Reste la question de la suite.
La grande question, et c'est vraiment la grande question que l'on doit se poser tous, c'est bien de reconstruire avec l'argent du contribuable. Pour nous, ici, en Nouvelle-Calédonie, les contribuables calédoniens, s'il y a des aides de la France, c'est le contribuable français. On va reconstruire. Mais est-ce que ce qu'on va reconstruire, ça ne va pas être encore détruit demain? Et donc la question, c'est, est-ce qu'on reconstruit quelque chose de solide, quelque chose de durable? Et ça, la réponse, c'est les politiques.
Et l'UNIPALICA plaide toujours, comme la délégation l'a rappelé à Marie Guévenou, pour une indépendance en partenariat avec la France. Le cabinet de la ministre déléguée aux Outre-mer, de son côté, a reçu lui aussi un certain nombre de délégations, dont l'association Citoyen Mondorien. Son président, Florent Perrin, a souhaité faire passer 3 messages à l'État.
C'était très important qu'on puisse porter cette voix-là. On leur a fait part de l'urgence de débloquer la route de Saint-Louis. Ce sera remonté directement au président de la République, qui donnera l'ordre ou pas de faire cette intervention qu'on attend tous. Donc ça veut dire que s'il n'agit pas dans les prochains jours, on va commencer à manifester. Hein. C'est pas possible, on ne peut plus rester comme on est. Donc oui, maintenant il faut une réaction et une action très rapide. Le deuxième message, c'est que dans la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, nous avons demandé à ce que nous soyons prioritaires pour notre viaduc, qui est une nécessité absolue aujourd'hui. Et enfin, c'est de pouvoir avoir un ferry en fait en attendant la construction du pont. Donc voilà, les choses seront remontées directement au président de la République. Et ben maintenant, on attend un retour très rapide, notamment pour la libération de la route.
Et je rappelle que la route est actuellement bloquée par les forces de l'ordre qui contrôlent toutes les entrées et les sorties au niveau de Saint-Louis. Hier, justement, c'est une société de pompes funèbres qui a été raquettée à la hauteur de la tribu. Elle avait été appelée pour aller récupérer un corps au Mont d'Or Sud. Après un arrêt à la gendarmerie de Saint-Michel pour vérifier si l'accès était praticable, le camion a donc emprunté la RT1 sans aucun incident. D'ailleurs, c'est au retour que le transporteur a été arrêté par des individus qui ont exigé de fouiller le camion frigorifique. Ils ont demandé d'ouvrir les portes du véhicule et ils ont même été jusqu'à ouvrir la housse mortuaire pour vérifier qu'il s'agissait bien d'un corps qui était transporté. Les malfaiteurs ont ensuite racketté les employés en leur demandant de l'argent. Une plainte a été déposée, notamment pour violation de sépulture. Et puis le parquet de Nouméa a ouvert une enquête après la découverte samedi matin, à la fois du corps d'un homme de 62 ans qui présentait de graves lésions de la peau, un enfoncement du crâne et des lésions au niveau des parties génitales. Selon le rapport d'autopsie qui précise que la victime était très fortement alcoolisée, ses blessures sont compatibles avec la thèse d'une collision avec un véhicule. Des recherches sont en cours pour tenter d'identifier la voiture et son conducteur.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec d'abord la réponse à notre question d'hier. 84% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent que c'est dans le domaine de l'ordre public qu'ils attendaient surtout des réponses de la part de Marie Guévenou, la ministre déléguée aux Outre-mer. Ils sont 16% à dire qu'ils attendaient surtout des réponses dans le secteur économique. La question de l'avenir institutionnel n'est pas pour eux une préoccupation du moment. Et voici notre question du jour. Êtes-vous favorable à l'instauration d'un jour de carence dans le secteur public, comme le propose le gouvernement, avec pour objectif de maîtriser les dépenses de fonctionnement dans le secteur public? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2, et vous envoyez votre réponse au 31-46, 17h58, dans un instant, la suite de l'actualité.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Spécial info-jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 000 000 de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Info soir, Gilles Ménage.
Je vous le disais en titre, la province sud réagit et met les choses au point après la fermeture du foyer Béthanie. Dans une lettre adressée au président de l'association d'entraide sociale du quartier latin, La province prend acte de décisions anticipées, celles qui ont mis fin à l'activité du foyer, Jean-François.
La polémique est née en partie sur les réseaux sociaux et elle a été relayée par certains médias qui ont accusé le foyer Béthanie d'abandonner ses pensionnaires. En réalité, depuis le début des émeutes, certaines femmes accueillies au foyer ont eu soudainement un comportement très agressif. Des membres du personnel et en premier lieu la directrice depuis 17 ans ont été ciblés par des menaces de mort et des insultes à caractère raciste qui ont rapidement dégradé le climat au sein de l'établissement. Mais l'association Béthanie a également mis sa décision de fermer le foyer et de licencier tous les agents sur le compte des baisses de subventions de la province sud. C'est totalement faux, précise le secrétaire général de la province sud, Nicolas Panier.
Il faut déjà rappeler que c'est une association qui gère ce foyer, donc c'est l'association qui prend des décisions. Et cette association, elle nous a indiqué à un moment qu'elle voulait cesser de manière anticipée son activité. Donc nous, on ne peut que prendre acte des choix de l'association qui gère ce lieu. Ensuite, il a été dit que nous n'aurions pas versé l'intégralité de notre subvention. C'est totalement faux. On verse au foyer Béthanie, comme aux autres CHRS, en début d'année, une première partie de la subvention. Et ils ont jusqu'au 30 juin pour nous envoyer le bilan de l'année précédente. Et on verse le solde. Jusqu'à présent, l'association Béthanie nous a pas envoyé les éléments qui nous permettraient de verser le solde. Et en plus, ils ont annoncé, y compris sur les réseaux sociaux, que de toute façon, ils souhaitaient par eux-mêmes fermer la structure pour des raisons que nous n'avons pas à juger et qu'on peut comprendre au regard de la dureté de la situation. Mais en tout cas, ce n'est pas une problématique d'aide, ce n'est pas une problématique de budget. Entre 2019 et 2024, l'ensemble des subventions que la province donne à l'ensemble des foyers qui accueillent des personnes aujourd'hui qui ont besoin d'être hébergées, le budget a augmenté de 10%. Donc la province a fait un effort très significatif à destination de ces populations les plus fragiles, mais ça doit se faire dans un cadre, ça doit se faire selon des règles, et ça doit se faire surtout avec des structures qui font le choix ou arrêtent de faire le choix d'avoir cet hébergement-là, mais il faut qu'elles assument les choix et les décisions qu'elles prennent. Ce n'est absolument pas une problématique de soutien budgétaire.
Depuis de nombreuses années, le foyer Béthanie du quartier latin accueillait en permanence 25 pensionnaires, pour la plupart des femmes victimes de violences conjugales notamment. De son côté, l'association déclare se réserver le droit de porter plainte contre les propos diffamatoires et calomnieux répandus sur les réseaux sociaux.
Et de son côté, le centre médico-social de l'île des Pins aménage ses horaires. Décision prise par la province sud en raison du départ de la sage-femme du CMS et de l'annulation des vacations du dentiste de Lille. Le CMS de l'île des Pins ne disposera plus que d'un seul médecin à compter de ce lundi. Ces départs sont la conséquence des nombreuses exactions et agressions dont sont victimes le personnel soignant. Patricia Pedre est la directrice adjointe de la DEPASS pour la province sud.
Ces départs qui sont dus malheureusement à la situation actuelle, aux émeutes. Nous avons quand même nos agents qui ont vécu des moments plus ou moins difficiles, en tout cas très inconfortables, avec de la maltraitance. Certes, pas du tout de violence physique. Hein, et malheureusement, il arrive très régulièrement en ce moment que nos agents, quels qu'ils soient dans n'importe quel CMS, vivent des situations un peu conflictuelles. C'est jamais très très agréable de travailler dans ces conditions-là, c'est jamais très serein. Certains ont préféré partir suite à ces insultes, que ce soit directement sur eux ou directement vers leur famille. Et il ne faut pas oublier que ces familles vivent aussi des situations qui peuvent être délicates.
Le centre sera donc ouvert de 8h à midi et de 13h30 à 17h du lundi au jeudi. Et de 8h à midi et de 13h30 à 16h le vendredi, en dehors de ces heures d'ouverture, comme en cas d'urgence, les patients doivent appeler le 15. C'est un numéro gratuit. La province sud conseille aux patients fragiles et femmes enceintes de se rapprocher de la Grande Terre. Pour rappel, c'est le CMS de Thiot qui a fermé ses portes il y a une semaine après le retrait des médecins ou encore de la sage-femme. Le parc provincial zoologique et forestier, de son côté, rouvre ses portes mercredi prochain pour les vacances scolaires, et ce, pour la première fois depuis le 12 mai dernier. Mais le dernier inventaire, Isabelle Pelletier, a fait apparaître la disparition de 8 animaux.
Oui, 2 cerfs, 5 roussettes noires et une grue du Japon manquent en effet à l'appel. Les faits remonteraient au début des émeutes. Les animaux, notamment de ferme, ont été déplacés pour les mettre à l'abri et les mesures de sécurité ont été renforcées. Une plainte a été déposée et l'enquête suit son cours. Les précisions de Marianne Bonzon, responsable du parc provincial zoologique et forestier.
Il y a eu des exactions au tout début des émeutes, hein. Ça correspond à peu près à 0,5% de la collection, environ 8 animaux qui ont disparu, parce qu'on ne les a pas retrouvés. Pour ça, donc, la province, avec le concours de l'équipe, a pu mettre en place quelques mesures de sécurité du site, hein, avec un prestataire de service, hein, une société privée. Il a permis du coup de garantir la sécurité du site, des bâtiments publics, mais aussi de nos pensionnaires. Et tout ceci a porté ses fruits, en fait, et a permis justement de pouvoir passer le plus fort de la crise. Et de notre côté, l'équipe des soigneurs qui n'a jamais arrêté les soins depuis le 13 mai, hein, les soigneurs sont tous les jours venus s'occuper des animaux sans relâche. On a pu faire aussi des transferts d'animaux pour les mettre plus en sécurité et puis pour leur bien-être aussi. Ces modifications au sein même du parc sont encore d'actualité puisqu'on n'a pas remis les animaux au lieu habituel, mais les gens pourront les retrouver au sein du parc dès mercredi prochain.
La province sud a souhaité rester discrète sur la disparition de ces animaux de manière à ne pas donner d'idées à des personnes malveillantes tout en accentuant la sécurisation du PPZF. Le parc provincial zoologique et forestier sera donc ouvert du mercredi au dimanche de 9h à 16h durant la période des vacances scolaires. Mêmes horaires d'ouverture pour le parc des Grandes Fougères. Attention, ces horaires sont modifiés. Toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook de la province sud.
Et puis autre réouverture ce week-end, cette fois celle des boucles de Tina à l'occasion des vacances scolaire toujours. La province sud annonce que le site rouvrira à partir de demain 8h. Compte tenu des dégradations subies, le parking des voitures, les sanitaires et les installations de rinçage des vélos resteront fermés. En revanche, les 7,5 km de pistes cyclables, les plus de 26 km de pistes de VTT, de bike park et de pump track sont accessibles. Un balisage spécifique est mis en place à l'entrée du site. Les émeutes du 13 mai, leurs conséquences toujours. Première Ressources prolonge le recours au chômage partiel pour la majorité de ses équipes. L'industriel indique que les activités minières et industrielles sont toujours à l'arrêt depuis le 13 mai en raison d'un manque d'accès à l'eau brute et à l'électricité. Seule une équipe restreinte est mobilisée sur le site pour assurer la sécurité des installations. Et puis selon la dernière note de conjoncture de l'ISEE, les échanges commerciaux à l'importation comme à l'exportation sont en baisse de 30% au deuxième trimestre 2024, Isabelle.
Les émeutes déclenchées le 13 mai dernier, cumulées à la crise du nickel, ont lourdement impacté les échanges commerciaux du second trimestre, précise l'Institut de la Statistique et des Études Économiques. Alors que le mois d'avril était stable pour les importations et en hausse de 46% pour les exportations, les mois de mai et juin enregistrent des baisses en valeur de plus de 40% à l'import et de 60% à l'export. De leur côté, les ventes des produits du nickel ont diminué de 30% au deuxième trimestre, entraînant une baisse des exportations d'une valeur similaire. La baisse des importations concerne toutes les familles de produits, parmi lesquelles les plus impactées sont les machines industrielles et les voitures, les combustibles, les pneus et les matériaux de construction. Les autres catégories de produits importés, parmi lesquelles les produits alimentaires transformés ou les produits frais et congelés, affichent des baisses de 6 à 35%.
La mise en place de la taxe sur le sucre, quant à elle, a été décalée d'un mois. Elle devait s'appliquer au 1er août. Elle devrait finalement être opérationnelle au 1er septembre après un mois de marche à blanc, Isabelle.
Oui, les entreprises ont fait remonter au gouvernement qu'elles ne seraient pas prêtes au 1er août. L'exécutif a finalement préféré une marche à blanc à un report. Les professionnels ont également indiqué que l'inflation générée par cette taxe, qui serait de 5 à 25%, n'était peut-être pas opportune en ces temps de crise. La taxe est calculée en fonction du taux de sucre contenu dans chaque produit. Seront touchés aussi bien les produits locaux que les produits importés. On écoute Xavier Benoît, le président de la FINC.
On avait expliqué au gouvernement que depuis plusieurs semaines, outre que c'était inopportun dans le contexte que connaît la Calédonie actuellement, on avait encore des réglages techniques à faire et que ce n'était pas une priorité pour les entreprises, donc ils n'étaient pas prêtes au 1er août. Donc on avait demandé effectivement un report qui n'a pas été accepté par le gouvernement, mais on a réussi à se mettre d'accord sur le fait qu'on ait un mois de marche à blanc pour se calmer techniquement, régler des problèmes techniques et puis donc que ce soit opérationnel au 1er septembre. On devrait pouvoir tenir les objectifs maintenant. Je pense qu'on aura encore au moins une ou deux réunions de calage avec les administrations du gouvernement de la Calédonie. Donc ça, on devrait y arriver. Après, sur l'opportunité dans le contexte de crise, on fera un point de situation aussi au gouvernement. Et puis, on aura des échanges pour voir si c'est tenable ou pas pour le consommateur calédonien.
Pour mémoire, la taxe sur le sucre est un impôt dit comportemental. Il vise à faire baisser la consommation des produits sucrés ou très sucrés en augmentant leur prix dans un contexte sanitaire où plus de 10% de la population calédonienne est atteinte d'un diabète de type 2. Les produits comme le lait, les yaourts ou encore les jus de fruits naturels sans sucre ajouté pourraient aussi être touchés par cette taxe. Ils font partie des ajustements encore à discuter.
Et justement, comment ont évolué les habitudes de consommation des acheteurs depuis le début des émeutes ? Farine, riz, pâtes, les rayons ne sont aujourd'hui plus vides. Pour autant, de nombreux consommateurs stockent toujours, en cause de l'absence de transport public, qui ne permet pas de se déplacer aussi librement qu'avant, bien sûr, ou encore la crainte de faire face à de nouvelles difficultés d'approvisionnement à l'avenir. On écoute quelques témoignages de consommateurs inquiets.
Je fais des stocks, oui. Du riz, les pâtes, tout ce qui peut se conserver sur longue durée. au cas où si on vient encore en manquer. Tout revient, le pain, la farine, tout est là, mais bon, dans quelques temps, on ne sait pas.
On nous dit qu'il faut faire du stock, parce que là, à ce qui paraît, ça va repartir en septembre.
Ben là, c'est plus pour une mamie qui fait sa réserve. Du coup, ben, là, je prends déjà 2 kilos, mais là, on a déjà 2 à la maison. C'est juste faire son stock pour éviter qu'elle... Mais elle n'a pas de voiture. Elle m'envoie pour faire ses courses. On fait plus attention à ce qu'il y ait toujours à manger à la maison pour éviter de se déplacer.
À cela s'ajoute une hausse des prix fortement ressentie des acheteurs. Même si de nombreux produits ont retrouvé leur place sur les rayons, l'offre de choix reste réduite et les consommateurs n'ont souvent d'autre choix que de se rabattre sur les produits plus chers. L'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie annonce d'ailleurs la création d'un comité de prospective pour l'aider à préparer la sortie de crise et la reprise économique. Il viendra en appui de la CNC sur des sujets tels que la régulation des prix, les protections de marché et contingentement d'importation. Ces 4 membres sont tous membres de l'autorité métropolitaine de la concurrence ou de l'autorité polynésienne de la concurrence.
Vous écoutez Info Soir, il est 18h10.
Une passation de commandement ce matin à la base navale de Nouméa. Après 3 ans passés à Nouméa, le pacha de la base, le capitaine de vaisseau Guillaume Montagnier, quitte le territoire pour rejoindre la métropole. Une base navale qui sera désormais commandée par le capitaine de vaisseau Julien Faure, ingénieur naval de formation. Il a notamment servi à bord des sous-marins nucléaires d'attaque de la marine nationale et rejoint aujourd'hui Nouméa dans un contexte particulier.
Il y a un contexte opérationnel très particulier qui est lié à la période actuelle. C'est une base qui a une activité relativement dense, dont la mission première est naturellement de soutenir les unités qui sont embasées, donc de la Marine nationale, mais aussi de participer à l'activité des forces armées en Nouvelle-Calédonie. C'est une responsabilité particulière d'être au rendez-vous. Je prends ce commandement dans un état d'esprit de confiance. J'hérite d'une base qui est opérationnelle, qui a su répondre au contexte un petit peu particulier du territoire. J'ai un équipage soudé et je suis absolument confiant en l'avenir.
Et depuis 3 ans, c'est donc le capitaine de vaisseau Guillaume Montagnier qui commandait la base navale de Nouméa. Des années particulièrement denses, nous a-t-il confié.
La base navale de Nouméa est une vitrine de l'investissement de la France dans ses outre-mer. Puisque pendant mon temps de commandement, j'ai reçu 3 nouveaux bateaux, 2 nouveaux remorqueurs et le premier patrouilleur outre-mer français, l'Auguste Benebig. Nous avons également construit un quai remarquable qui nous offre beaucoup de possibilités d'interaction. Et tout cela, nous avons pu le mettre en œuvre pendant les événements en assurant de nombreux transports au profit direct de la population, par voie maritime, par voie amphibie, soutenir tous les hélicoptères qui venaient délivrer de la nourriture aux populations et soutenir l'ensemble des forces de sécurité intérieure. Le Caillou, les Calédoniens sont très attachants. Lorsqu'on est commandant, on donne beaucoup de sa personne. Le professionnalisme de l'équipage, son dévouement nous aide à aller toujours plus haut. Donc c'est une énorme charge pour un commandant et là effectivement aujourd'hui, cette charge descend. Je suis très ému et très triste de quitter le Caillou.
Le capitaine de vaisseau Guillaume Montagnier qui va quitter le territoire pour rejoindre l'état-major des marins-pompiers de Marseille. Notez que la cérémonie de ce matin s'est déroulée en présence du général Yann Attil, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, que vous avez pu entendre dans notre édition de la mi-journée. L'actualité dans la région Pacifique, un organisme spécialisé dans la sécurité informatique a révélé que l'Australie est devenue la cible d'opérations de cybercriminalité de très grande envergure. Précision, Jean-Pierre Zajac.
La firme de cybersécurité Orange Cyberdéfense a révélé que les demandes d'extorsion des grandes entreprises australiennes ont augmenté de 61% au cours de ces 12 derniers mois et que ce chiffre n'est certainement que la partie émergée de l'iceberg dans la mesure où nombre de sociétés, sans doute par crainte de représailles, n'en font pas état. À en croire ladite firme, 97 organisations australiennes ont été victimes de cyber-extorsion, notamment dans les secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques. Celui de la santé a fait l'objet d'une attention toute particulière, puisque les attaques le visant ont fait un bond de 33% en un an. Il est urgent que les sociétés australiennes adopte un degré élevé d'automatisation pour garantir leur souveraineté technologique, a estimé Orange Cyberdéfense. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est précisément 18h15. Dans un instant, l'actualité festive et sportive.
Mazda informe son aimable clientèle de l'ouverture de la concession de 8h à 15h à Magenta, rue Auguste Bénébigue. Arrivage récent du nouveau Mazda CX-90, un autre monde, une autre dimension.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Info sur la suite, Jean Ménage.
Avec le programme festif de votre week-end en Calédonie et d'abord ce marché solidaire à Païta, des stands gratuits sont proposés pour aider les commerçants victimes d'exactions à écouler leurs produits, un moyen de redynamiser l'économie de la commune et de permettre aux habitants de Païta de se retrouver. C'est un marché ouvert aux particuliers et aux petits producteurs. Il sera proposé tous les vendredis et samedis du mois d'août sur la place du marché municipal de Païta. Le prochain rendez-vous, c'est donc demain matin de 6h à midi. À Dimbéa, le marché municipal lui revient demain de 8h à 13h. Attention, changement de lieu, le marché aura lieu au Parc Fayard. Retrouver des produits frais, agricoles, d'artisanat et de gastronomie. Il y aura également un espace vide-grenier, des animations, l'entrée est libre et gratuite. Et puis à Pointe-Bout, le centre d'initiation à l'environnement organise un chantier participatif à la forêt sèche de Tipenganor, chantier ouvert demain matin de 8h à midi. Objectif de la matinée, finir de débroussailler le parking, couper les branches qui gênent le passage, étaler du schiste et planter quelques arbustes endémiques. Inscription et renseignements au 42 34 46, le 42 34 46, et puis l'association Droit au vélo, Nouvelle-Calédonie, organise une bourse au vélo demain. L'occasion de vendre un vélo qui ne sert plus ou bien de tomber sur une bonne affaire. Les vélos sont à déposer de 8h30 à 9h30 et un entretien minimum sera proposé par l'association. Les ventes démarrent à 9h30 et se terminent à 15h30. C'est à Nouméa, bien sûr. À Nouméa toujours, le festival Olympart. Deux jours d'animation de week-end, ce week-end au skatepark de Sainte-Marie. Un événement organisé par le groupement d'employeurs Sport et Loisirs Sud qui propose ce samedi et dimanche de découvrir les nouvelles disciplines olympiques issues de la culture urbaine. Écoutez les précisions d'Antoine Delia, le directeur du groupement d'employeurs Sport et Loisirs Sud.
On est parti sur tout ce qui était le côté urbain, donc tous les nouveaux sports que l'on retrouve aux Jeux Olympiques comme le breakdance, le skateboard, le BMX, voilà, d'un côté, et puis donc lier tout ça au street art, donc du graff, du slam, du rap, du slackline, voilà, plein d'autres sports d'activités qui sont issus de la rue. Donc on a entre 10 et 12 activités qui seront mises en place toute la journée. Et pour chaque activité, il y aura des moments d'initiation. Petits et grands, vous pouvez venir vous initier, apprendre à faire de la slackline ou autre, du basket 3-3 par exemple. Et puis après, il y aura des démonstrations. Donc des démonstrations, par exemple le basket, justement, il y aura l'équipe de Calédonie qui sera là avec des entraînements des U23. Et puis après, des démonstrations, que ce soit en parcours, en workout ou autre.
Le festival Olympart, c'est donc ce week-end de 8h30 à 17h au skatepark de Sainte-Marie, au même endroit que la bourse au vélo.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Je disais donc, le festival Olympart, c'est ce week-end de 8h30 à 17h au skatepark de Sainte-Marie, au même endroit que la bourse au vélo. Allez, le programme des sports aux Jeux Olympiques ce week-end avec forcément une large page olympique et avec notamment des Calédoniens, Léo Fichou.
Et oui, et dans la nuit déjà, il y a de la voile avec le début des finales. Malheureusement, on attendait Nicolas Goyard. Il faisait partie des favoris de la compétition, mais il n'a pas été qualifié. Il s'est classé seulement 15e des qualifs. En revanche, en natation, on suivra Maxime Grousset sur le 100 mètres papillon. C'est sa spécialité, le nageur calédonien qui s'est retiré de la finale du 50 mètres nage libre pour être à 100%. Dimanche matin, on sera attentif aussi aux dernières manches de kitesurf, les demi-finales à Tahiti avec des Français et Françaises. Kaoli Vast, dont la maman est calédonienne, a sorti un autre Français en quart de finale, Johan Duru. Il est donc qualifié pour les demi-finales. Chez les femmes, Johan Defay s'est également qualifié pour le dernier carré. Je vous propose de l'écouter.
Ouais, je suis trop contente de suivre les pas de Kaoli. On a vu une super série entre les Français, je suis vraiment fière d'eux. C'était trop chouette. Là, avec Carissa, ça s'est bien passé pour moi, je suis trop contente. C'est un parcours difficile, clairement. Molly, Vainé, donc la locale qu'on attendait tous, la Carissa Moore, la championne olympique en titre. Et demain, du coup, j'aurai la championne du monde en titre. Donc, encore un morceau. Et voilà, se concentrer encore sur soi, ce que tu as à faire. Et on verra le résultat après. Mais je suis hyper contente de cette journée de compétition. Ouais, je me répète sans cesse, reste lucide, faut faire les bons choix, tout peut changer en un rien de temps. Une vague, ça change tout. Avec une vague, tu fais tout ici ou tu fais rien, donc c'est ouf.
Les demi-finales du surf, donc, c'est donc à suivre dès demain si les conditions météo le permettent. On le rappelle, il y aura un Français et une Française, Kaoli Vast et Johan Defay.
Et puis il y a du handball dès ce soir avec l'équipe de France masculine qui affronte l'Argentine.
Les coéquipiers de Nicolas Karabatic n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent imiter les féminines et se qualifier pour les quarts de finale. On le rappelle, ils ont perdu leurs deux premiers matchs face à la Norvège et au Danemark et ont fait seulement le match nul contre l'Égypte lors du troisième. La victoire est donc obligatoire cette nuit. France-Argentine, c'est aussi le quart de finale en football masculin. Le match est prévu demain matin à 6h. Mais avant ça, ce soir, il y aura la demi-finale du tennis de table avec Félix Lebrun face au chinois Fan Zhendong. Le français aura besoin du soutien de l'Arena Paris-Sud pour rallier la finale. Ce week-end également, on attend les judokas français avec le tournoi olympique par équipe mixte. Les tricolores, on le rappelle, sont champions olympiques en titre. La France démarre en 8e de finale. Ce sera demain dès 17h. Et puis, on parle toujours de judo avec l'entrée en lice aussi en individuel de Teddy Riner et de Roman Dico dès ce soir.
Et puis en cyclisme sur route, on espère que les tricolores feront mieux demain soir qu'à Tokyo il y a 3 ans, Léo.
En effet, David Gaudu avait pris la 7e place. En 2016, à Rio, Julien Lafilippe avait terminé au pied du podium, 4e. Et il sera de nouveau de la partie demain. Le capitaine français aura à ses côtés Christophe Laporte, Valentin Madouas, Kevin Vauquelin. Le départ de la course sera donné à 20h demain. On suivra également tout au long du week-end les performances de nos Français en athlétisme. Le décathlon qui démarre ce soir sans Kevin Mayer, qui a dû déclarer forfait, mais avec Mackenson Gletti. Il y a également le 110 mètres haies avec la pépite française Sacha Zoya qui sera alignée sur les séries dès dimanche en athlétisme.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et c'est Joël, habitant de Ouégoua, qui est aujourd'hui le gagnant de notre jeu de mémoire de jeu et qui remporte un bon carburant de 5000 francs offert par Shell, notre partenaire. Nous vous demandions quelle athlète française a été surnommée la petite fiancée de la France. Vous aviez le choix entre Colette Besson, Christine Aron ou Laura Flessel. La bonne réponse, c'était Colette Besson. La française qui n'était pas favorite remporte le 400 mètres lors des JO de Mexico en 1968 en faisant exploser son record personnel. Un peu plus tard, elle fond en larmes sur le podium pendant la Marseillaise, ce qui a ému la France entière et lui a valu son surnom de petite fiancée de la France. Rendez-vous demain pour une nouvelle question de mémoire de jeu sur Radio Rythme Bleu. Dans le reste de l'actualité sportive, pas de Formule 1 ce week-end, Léo, mais de la MotoGP et également du rallye WRC en Finlande.
Les pilotes de MotoGP sont de retour après un mois de trêve estivale. Rendez-vous donné sur le mythique circuit de Silverstone en Grande-Bretagne. Les Français Fabio Quartararo et Johan Zarco tenteront de faire mieux qu'en Allemagne où ils avaient terminé respectivement 11e et 17e. Et oui, on le disait sur les routes, le rallye de Finlande jusqu'à dimanche avec au total près de 305 km de course. L'occasion pour les trois meilleurs pilotes, Thierry Neuville, Ott Tänak et Elfyn Evans, de se départager dans la course au titre. On le rappelle, le français Sébastien Ogier est quatrième au général.
Et on termine cet agenda sportif du week-end avec le sport sur le territoire, car il y en a, Léo.
Et oui, il y en a sur le territoire, on le voit depuis quelques semaines, les événements sportifs commencent à reprendre leurs droits. C'est le cas avec la voile. Demain se tiendra la 5e étape du Challenge J70, un événement organisé par le Cercle Nautique Calédonien. Le départ de la première course sera donné à 13h30, BD Citron. 8 courses au maximum seront courues selon la météo. Et puis on termine avec les phases finales également ce week-end du championnat territorial de padel. Les meilleurs joueurs jeunes, hommes et femmes de Nouvelle-Calédonie vont tenter de décrocher leur place pour le championnat de France. Rendez-vous dès demain 9h à l'Olympique et au Receiving. Les finales auront lieu dimanche après-midi.
Merci Léo Fichou, 18h24, la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
On vous écoute pour les détails, Nicolas.
Alors, cette nuit, persistante d'un ciel gris avec des petites pluies, puis marquées au Loiloté en seconde partie de nuit, les pluies s'instopperont sur la Grande Terre et de larges éclaircies reviendront. Le vent de secteur sud moulira peu à peu autour de 10 nœuds, il deviendra variable faible sur la côte est et le sud de la Grande Terre. Les températures minimales descendront encore et deviendront très fraîches, entre 15 et 17 degrés sur le littoral et autour de 10 degrés à l'intérieur des terres. Demain matin, retour d'un soleil bien ensoleillé, bien sûr, température, une journée bien ensoleillée, quelques nuages et de rares averses pourront circuler sur l'ouest et les Loyautés. Le vent de secteur sud s'établira souvent entre 10 et 15 nœuds, parfois moins sur l'est, Gilles.
Merci pour tous ces détails, Nicolas. 18h25, la fin de cette édition.